Rencontre avec des poètes de chez nous, une émission proposée et animée par Patrick Matelier-Guinlay. Bonsoir, chers auditeurs de Campus FM, bienvenue sur 96.7 pour notre rencontre hebdomadaire avec la poésie et les poètes de la Martinique. Ce soir, avec nous, Édouard Massed. Bonsoir, Édouard.
Bonsoir.
Bienvenue donc à notre studio et nous allons donc parler de la poésie. Alors, Édouard Massed, tu es né à Fort-de-France en 1937.
Oui.
Puis tu t'en vas pour l'autre bord.
Oui.
Et tu reviendras en 1973.
Oui.
À partir de 1997, c'est la retraite, je suppose. Tu fréquentes un atelier d'écriture de l'Université du Temps Libre.
Voilà.
L'Université du Temps Libre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une université, entre guillemets, pour les
retraités, à vrai dire, tous ceux qui ont du temps libre. Hein,
voilà.
Ce n'est pas une question d'âge. Hein.
Pour les gens qui ont toujours cette jeunesse de l'esprit.
Voilà.
Et pour avoir fréquenté cet atelier d'écriture, tu publies ton premier ouvrage. Alors, ton premier ouvrage qui est
Martinique d'hier.
Ce sont des nouvelles.
Oui.
C'est en 1997 donc, que tu publies.
Oui.
Donc, pour la prose.
Oui, c'est de la prose, disons. Oui.
La poésie ne t'avait pas encore appelé.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Alors, tu fais aussi de la peinture?
Oui, disons que c'est à l'Université du Temps Libre que je me suis remis à la peinture parce qu'il y avait un atelier aussi d'art plastique. Et à vrai dire, la peinture et le dessin m'avaient toujours intéressé depuis l'enfance à l'école. Alors, je redécouvre, si on veut, cette activité.
En fait, la retraite, c'est une libération. C'est le plaisir retrouvé de faire tout ce qu'on avait envie de faire et qu'une vie de travail n'a pas laissé le temps de faire.
Exactement. Tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Et ce qu'on fait vraiment avec plaisir, alors qu'ailleurs, ce n'était pas forcément ça.
Et alors, tu as fait un séjour quand même à Madagascar dans ces 20 années que tu as vécu hors de la Martinique. Hein.
Oui, j'ai fait 30 mois à Madagascar, à Diego Suarez plus exactement.
Mm-hmm.
Un pays, bien sûr, avec le climat et là où j'étais, je ressemblais beaucoup à la Martinique. Il faisait chaud, même si on est dans l'hémisphère sud. Et donc, il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à la Martinique. En plus, il y avait une certaine communauté martiniquaise là-bas.
Alors, c'est quand même Raphaël Confiant qui t'a encouragé à publier tes écrits.
Oui, évidemment, parce que, bien sûr, quand on écrit, évidemment, on n'écrit pas seulement pour soi, on écrit aussi pour les autres. Alors, j'ai demandé conseil, comme Raphaël Confiant était notre animateur à un moment, et je lui ai présenté mon manuscrit et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il m'a dit qu'il a lu avec plaisir et que c'était souhaitable de le publier. Et en me souhaitant bonne chance. Alors, c'est ce que j'ai fait, évidemment, étant donné que la notoriété de M. Confiant.
Alors, ensuite, tu publies Martinique en vers et prose.
À Alors, malgré tout, je vais quand même pour Martinique dire, j'ai fait quand même un petit texte en créole. Un petit texte en créole, c'est des jeux de mots. Je ne sais pas si, oui, je ne sais pas si on peut parler. Enfin, ce sont des jeux de mots. Hein. On appelle ça enfin en français, ce sont des calembours. Je passe au second recueil, Martinique en vers et en prose. Alors, quand je dis Martinique en vers et en prose, évidemment, alors on va parler un peu de poésie, mais là je ne fais de la poésie, mais en cherchant plutôt à défendre, disons, des causes, hein, si on veut. Enfin, je ne sais pas si la poésie.
C'est ce que font tous les poètes.
Tous les poètes. Mais c'est-à-dire que j'ai plus privilégié le contenu hein, que peut-être le style, hein, même si c'est écrit en vers. Hein, c'est pourquoi que j'ai marqué Martinique en vers et en prose, je n'ai pas mentionné poésie. Bon, ben chacun voit évidemment la façon qu'ils vont.
Qu'est-ce qui t'a incité justement à passer de la nouvelle à l'écriture poétique?
Alors, là,
pourquoi l'écriture poétique? Pourquoi ne pas continuer sous forme de nouvelle ou de?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a amené à venir à la poésie?
Parce que quand j'ai commencé à écrire, effectivement, j'ai écrit que des histoires, des nouvelles, alors des choses qui m'étaient arrivées ou arrivées à d'autres personnes. Enfin, j'ai fait des petits récits, hein, un peu d'ailleurs avec en cherchant à être un peu à ce que ce soit plaisant à lire.
Oui, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais bon, par la suite, oui. En 2000 et en 2002, tu vas publier Un Saint-Villien à la campagne, puis Le Retour du Saint-Villien, qui sont en quelque sorte un peu autobiographiques. Comporte une part d'autobiographie, puisqu'il s'agit de la vie au Terre Saint-Ville en temps longtemps.
Oui, voilà. Alors, ce recueil, Martinique en vers et en prose, par exemple, je prends des titres comme ça, Contradiction lorsque tu nous tiens, c'est la Martinique. Ce sont des satires hein, sur la société martiniquaise. Hein. Et d'autres, par exemple, la tragédie d'un exclu. Enfin, déjà, c'était le problème de la drogue. Débouillard pas péché. Ça représente bien hein, une façon de fonctionner de beaucoup de nos compatriotes. Et aussi, comme tout compte fait, il n'y avait pas longtemps que j'avais laissé mon activité où j'avais une petite entreprise. Donc, à trois le patron, le syndicaliste et l'ouvrier, c'est pareil, c'est la société, c'est les problèmes qu'on rencontre.
Donc, une poésie sociale, une poésie engagée dans voilà. Le social et avec beaucoup d'humour, mais aussi un peu de colère, parce que tu c'est quand même très personnel par moment. Ça pourrait être sous-titré les malheurs d'un chef de petite entreprise.
C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul texte sur celui-là, mais les autres on verra après. Effectivement, disons que c'est un regard sur la vie. Bon, et souvent, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à raconter ce qui se passe normalement. Hein. On raconte plutôt ce qui ne va pas. Et évidemment, on pourrait aussi raconter des choses très plaisantes, parce que ça arrive qu'il y en a. Mais comme souvent les choses bien plaisantes et tout n'ont pas de quelque chose de très particulier pour qu'on puisse les raconter. Donc, on préfère se tourner vers des fois des choses qui sont moins agréables.
Alors, ta poésie, c'est vrai qu'elle ne rentre pas dans une définition particulière ou un style particulier. C'est vrai que ce côté satire, au sens boileau, hein, il y a beaucoup d'humour, il y a en même temps beaucoup de gravité, cela est très 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 mélangé. On va voir ça un petit peu plus tard quand tu vas nous lire des extraits. Et puis donc en 2005, Choc en bloc.
Oui.
Alors Choc en bloc, vers, prose, français, créole.
Voilà.
Tout ça en paquet.
En paquet. Alors j'ai même, on peut même faire une discussion, disons, une petite polémique là-dessus, sur le créole, le français, sur. Et là, parce que je n'ai pas traduit mes textes en français, mais j'ai donné souvent une idée du texte. Hein. Pour que les gens qui le lisent en créole, si vraiment ils ont quelques problèmes à lire le créole, ils peuvent se repérer. Mais il faut qu'ils sachent que ce n'est pas une traduction. Donc, il vaut mieux qu'ils lisent le créole d'abord. Parce que, comme on le sait, le créole, il y a des moments, il y a des tournures, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire en français, qu'on ne peut pas traduire de toute façon dans toutes les langues. De toute façon, on ne peut pas traduire textuellement ce qu'on dit en créole en français. Mais effectivement, c'est vrai que j'essaie de toujours de mettre un petit peu d'humour pour que ça soit un peu plaisant, même si c'est une satire.
Alors, la particularité de tes livres, c'est que tu en es le concepteur, l'éditeur, le réalisateur, que tu les illustres avec tes propres peintures. C'est un travail totalement autodidacte et, ma foi, fort réussi.
Oui, alors on peut dire autodidacte, effectivement, surtout que l'informatique, je n'ai pratiquement pas pris de cours d'informatique. Bon, bien sûr, quelquefois, je me fais aider en demandant des renseignements à d'autres plus initiés. Mais en principe, j'ai appris tout seul. Quand j'étais déjà dans l'entreprise, j'ai commencé à faire un peu d'informatique.
Honnêtement, je vous assure que cela n'a rien à envier à des éditions traditionnelles. C'est vraiment très réussi. Le choix du papier est très beau. Moi, je suis admiratif. Voilà une retraite fort bien occupée. Et des influences, est-ce que tu as eu des influences dans ton écriture?
Non, je ne peux pas dire des influences. Finalement, c'est vraiment que je suis arrivé à l'écriture vraiment par hasard, de toute façon. Donc, des influences. Alors, moi, c'est pareil. Bon, il faut dire, quand on aime, c'est un peu, disons, sans être prétentieux, un peu inné. D'écrire, parce que on a l'habitude, on aime l'écriture. Quand on est parti, quand on est à l'extérieur, quand on écrit aux parents, on fait de grandes lettres. Bon, on essaie d'être. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que l'écriture, a toujours existé chez soi, là, cet amour d'écrire. Et là, quand je parle de. Je parle du hasard qui m'a fait venir à l'écriture, c'est que je n'avais aucune intention d'aller à l'université pour écrire, parce que je ne savais même pas qu'il y avait un atelier d'écriture à l'université. Alors, je suis allé pour faire de l'anglais. Et c'est là que j'ai découvert l'atelier d'écriture et je me suis inscrit à l'atelier d'écriture. Et parce que j'avais déjà écrit un petit texte qui concernait la profession. Et à ce moment, bien sûr, l'atelier d'écriture pendant un an, il fallait écrire. Et là, j'ai commencé à écrire, à raconter des petites histoires, des souvenirs d'enfance. Et c'est comme ça que c'est parti.
Il n'y a pas de hasard, tu sais. on ne se proclame pas poète. On le devient parce que c'est les gens qui nous disent tel. Et quand on le devient, c'est que quelque part, on devait le devenir.
Mais oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai que c'est un parcours atypique. Tu n'avais jamais écrit de poésie auparavant.
Oui, non, jamais, jamais. Mais j'avoue quand même, malgré tout, c'était une matière, parce que quand on était en classe, et on avait des récitations. Et moi, ça me plaisait beaucoup, les récitations. Alors, c'est des poèmes, de la poésie. Et je me souviens même d'une petite histoire. J'avais peut-être 3-4 ans, et même, oui. Et j'avais une récitation d'ailleurs que je récitais, que je déclamais à la maison. Et j'avais même ça avait fait l'objet de la moquerie un peu de tout le monde, étant donné que j'avais pas bien compris les mots. Alors quand je déclamais, je me trompais. Bon, enfin, c'était pour la petite anecdote. Hein, c'est pour dire que c'était depuis très petit, enfant, que je s'étais intéressé quand même par la poésie, sans pour cela avoir une idée, l'idée un jour d'écrire.
Alors, tu vas peut-être nous illustrer avec une lecture ta poésie. Et en fait, moi, j'aimerais que tu nous lises un extrait de ton dernier recueil, Chuck en bloc, oui. Qui s'appelle « Que Dieu nous bénisse ».
Voilà, je l'avais choisi et aussi, je l'avais...
Neuf.
Que Dieu nous bénisse. J'attends sereinement Dieu, mais je ne veux pas rencontrer le Dieu qui a condamné Adam et ses descendants à perpétuité. Celui qui a créé les hommes égaux à la naissance, en donnant aux uns une cuillère en or et aux autres un sac de cailloux, qui m'oblige à implorer à genoux alors qu'il n'écoute pas mes prières. Celui qui est trop complaisant à l'égard de Satan, qui par le biais de la drogue pousse nos enfants en enfer. Je me méfie des dieux sectaires dont la foi semble très proche de celle de Mercure. Je me méfie également des écrits dont les prophéties et les paraboles se prêtent à mille interprétations. Je n'aime pas le Dieu qui laisse Pinochet mourir en paix, alors que de saints hommes ont succombé sur sa torture. Je rejette le Dieu machiste qui exige beaucoup des femmes et absout trop souvent les hommes. Je renie le Dieu des ayatollahs qui applaudit lorsqu'on égorge les enfants d'Algérie. Je refuse d'obéir au Dieu qui veut m'imposer ses mystères, qu'ils soient de la Trinité ou de la rédemption. J'exègue seul ainsi toute doctrine nébuleuse, ferment de l'obscurantisme. Je déteste le Dieu des Hutus qui fait exterminer les Tutsis, sûrement le même qui a cautionné la Sainte-Barthélemy, octroyé l'extrême onction aux négriers et ignoré le génocide des Juifs. Je dénonce celui qui donne sa bénédiction à l'oncle Sam lorsque meurent des bébés irakiens et qui en même temps ferme les yeux quand sa dame s'en prend aux Corinthiens. Je méprise le Dieu de Bush pour lequel la dévotion est imprégnée de sentiments pétrolifères. Je fustige le Dieu des Juifs qui spolie les Palestiniens. En soutenant ce discours contestataire, j'espère n'avoir pas offusqué ce Dieu cruel qui me condamnerait cette fois, après ma mort, à brûler éternellement en enfer. Je cherche un Dieu qui ne s'accommode plus des contradictions de ses prédicateurs. Donc, J'attends un Dieu juste et bon. Il n'est peut-être pas très loin. Qu'il prenne le nom d'Allah, de Jéhovah ou de Bouddha. De grâce, ne le lui faisons pas dire que ce que nous voulons entendre.
C'est un très beau texte, un texte grave et puis qui aborde toutes sortes de problèmes, aussi bien des problèmes de société, des problèmes sur ce monde déchiré absurdement par la guerre, par des hommes qui, après un million d'années, voire deux d'existence, sont toujours pas compris. C'est un très beau texte sur la tolérance, en fait.
Mais oui, c'est un peu un texte d'actualité où on voit des fanatiques et
au nom de la religion qui est censée unir les hommes entre eux et unir les hommes à Dieu, on déclenche les massacres les plus sanglants.
Voilà.
C'est un texte important, c'est un texte grave. J'ai voulu que tu commences par là parce que c'est un texte qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lu la première fois. Et donc, on va passer à quelque chose de peut-être plus léger, plus humoristique. C'est vive la retraite.
Ah oui.
Alors ça c'est un texte tout à fait personnel.
Ben oui, effectivement. Et la retraite, comme je le dis finalement, c'est la meilleure partie de sa vie, si on veut. Hein? Peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, au moins pour moi, hein, c'est mon opinion.
Je pense que beaucoup de gens pourraient en prendre de la graine, si j'ose dire, hein, parce que c'est vrai que tu es très actif dans ta retraite.
Oui, c'est vrai que des fois je me dis que je n'ai pas suffisamment de temps pour faire tout ce que j'ai à faire.
Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par la retraite et travailler ensuite pour payer sa retraite?
Alors ça c'est une idée à lancer. On verra bien ce que notre nouveau Premier ministre en pense. Alors, vive la retraite, c'est le titre. Le crépuscule de notre vie, nommé pudiquement troisième âge, ne nous confère nullement l'honorable titre de sage, et en nous laissant même le droit d'être encore volage, ne nous prescrit surtout pas de demeurer en cage. Certains d'entre nous sont amoureux des voyages, alors que d'autres préfèrent les pèlerinages, mais notre maturité nous concède d'autres avantages qui nous permettent surtout d'être toujours à la page. À ceux qui voudraient nous caser dans une voie de garage, je leur déclare solennellement et sans embâge qui n'auront jamais notre suffrage, car de vivre, nous avons encore au fond du cœur la rage. Je déteste être appelé papy par n'importe quel malotru qui nous traite sans la moindre déférence due à notre statut, alors que nous avons donné notre contribution à la société. Nous rejetons donc avec dédain tout ce qui s'apparente à la pitié. Nous voulons jouir dans toute sa plénitude, de surcroît avec béatitude et sur toutes les latitudes, de cette retraite que nous avons sans aucun doute méritée et qui nous comble de bonheur en préservant notre sérénité. À toi le jeune qui de la vie en fait l'apprentissage, je t'assure être disposé généreusement à tout partage. Dans la noble voie sur laquelle, avec énergie, tu t'engages, même si tu n'es seulement armé que de ton courage.
belle leçon sur la retraite et puis sur ce rôle qu'ont les anciens de transmettre leur expérience. Oui. Et tu y réussis parfaitement puisque tu le fais à travers l'écriture.
Oui, j'essaie toujours, enfin c'est sans prétention quand même de ma part, parce qu'on peut toujours croire que je suis un donneur de leçons, Mais j'essaie toujours de mettre une morale hein, dans ce que j'écris, hein, et, puisque souvent, hein, dans d'autres cas, la morale disparaît complètement. Donc, c'est peut-être bon de la rappeler de temps à autre.
Alors, il y a un texte que j'aime énormément aussi, c'est Pucci, un texte en créole. Peut-être je peux le lire.
Ah oui, si tu veux,
si
ouais,
tu m'autorises.
Ouais, pas de problème.
Depuis où t'es tout petit, où t'es capant fait, yo dis qui où t'es plus mauvais qu'il y s'y fait. Pas tes gens fait, personne n'a rien, mais pour yo, où t'es en caca chien. Yo t'es qu'à trouver qui ou pas t'es belle. Qui ou t'es pli lettre qui empêchait mortel. Pas t'es même savent, pouti ou t'es qu'à crier ou bozambo. Personne pas t'es jamba ou yin, pas même en filibo. Ou t'es tellement raï l'école, qui ou jit ton tien bé mettre là, pas colle. T'es pijouta là, ou t'es qu'à balari chaîne. Mais c'est où celle? Ça t'est qu'à faire la peine. Ou chercher en moun pour bas ou en l'en-main. C'est comme ça ou trouver en l'en-main qui bas ou en joint. Après ça, c'est craque là qui pétait tête ou déjà presse vini fou. Qui donc, ça qui t'est pour fête, fête. Parce que ces gendarmes là, pas t'est qu'à faire la fête. Ou pas t'es ni l'argent, ou pas t'es ni travail. Ou manger ou défoncer en caille. Jige là, pini ou pou vol, y ba ou on l'en est la jol. Depuis jouta là, ou t'es qu'à descendre. Descendre. C'est à rien ou pâté les tendres. Un jour, bon matin, en bas en pied ton marin, y'a trouvé ou face en l'air, zié ou tout grand ouvert. Personne pas savent, si c'est bandier qui t'a ni pitié des Ichli, ou bien si c'est diabla qui t'a les fini travail li. Ou qui pas t'a ni papa, qui pas t'a ni maman, ou t'es qu'à garder les filles maman avec qu'en yeux ou, yo t'es qu'à li, pouchi en l'est la tête, ni tout ça l'en misait. Si nous les tirer en lisson dans l'histoire t'as là, nous kawe qui moun pas aimé sa qui pas ka sans mieux. Mais il faut que yo bien mette en tête yo qui personne pas ka choisi, ni maman yo, ni papa yo. Ni di être belle, ni di être laide, ni couler la peau yo. Qui donc respect ba tout moun. C'est plus belle bagaille qu'il n'y. Et c'est une fable. C'est presque une fable, une fable moderne, une fable sociale. Mais c'est une fable. C'est, on sent un souffle. J'ai presque envie de dire, non pas La Fontaine, mais j'ai envie de dire Georges de Vassoigne.
Oui,
ce grand maître fabuliste nous connaissons tous deux et qui est venu ici même, y a un souffle comme ça de fable. Là encore, l'humour n'est pas présent. C'est quelque chose qui est plutôt désespéré.
Oui.
Mais c'est un très beau texte. C'est un texte que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a plusieurs textes de cette veine-là. Peut-être tu as un texte à nous donner.
Donc, oui, alors donc, je vais maintenant lire ce poème. Enfin, j'écris et comme ça donnera au moins
une
idée.
C'est un peu, comment dire, un bréviaire.
Oui,
en fait, c'est le texte qui ouvre Choc
voilà,
en bloc. Hein.
C'est le texte, oui, et le premier.
Et tu t'expliques un peu sur la manière dont tu conçois l'écriture.
L'écriture.
Nous t'écoutons.
J'écris. J'écris sans nostalgie pour les jeunes de 7 à 117 ans. J'écris et décris la Martinique d'antan. J'écris en vers, j'écris en prose, j'écris dans la langue de Voltaire. J'écris dans la langue de ma mère. J'écris en pays dominé par la peur de ses penchers. J'écris contre le syndrome du colonisé. J'écris, écris mon désespoir et mes espérances. Épris de liberté, je fustige tous les aigris de tous bords qui prennent le pays en otage. J'écris pour partager mes émotions inhibées par le verbe. J'écris pour cacher mon émotion quand ma voix me trahit. J'écris avec mes contradictions pétries dans mon intention. J'écris pour ne pas me battre et me bats pour écrire. Je maudis les maudits par mépris et non écrit par lâcheté. J'écris comme Don Quichotte des masses de mots qui enchantent et voudraient soulager de leurs mots les masses qui souffrent. J'écris pour évacuer ma paranoïa et exalter mon utopie. Je voudrais être la main de tous les manchots, virtuels ou réels, de tous ceux qui n'osent pas, mais les mots me manquent, ma muse somnole, mes lecteurs me boudent, l'encre s'assèche et mon cœur qui ne peut s'ouvrir se brise. Après une pause, ma muse me fait des yeux doux. Je reprends ma plume de pèlerin et me dis, j'écris, peut-être parce que c'était écrit.
Eh bien, il n'y a pas de hasard, hein, c'est ce que je t'avais dit. Hein, on n'est pas poète par hasard. J'écris, peut-être parce que c'était écrit. C'est une belle conclusion pour ce texte. Il est très beau, ce texte, en fait. Il est très beau. Don Quichotte. Le poète a ce rôle un peu de Don Quichotte, oui, partant contre les moulins à vent de l'oppression, de l'injustice, avec ses à la fois moyens ridicules, puisque ce ne sont que des mots, mais en même temps, cette puissance derrière les mots, cette puissance de la sincérité de l'âme, qui a fait soulever des nations, puisque les poètes se sont souvent retrouvés en prison parce que les tyrans de ce monde les craignaient plus que tous les autres et craignaient leur pouvoir de persuasion.
Oui, et justement, quand on parle aussi, on parle d'utopie, c'est vrai que ça a l'air d'être de l'utopie quand on voit... Et à quelle vitesse que avance, comment on voit le progrès, donc, et quand on peut penser que c'est de l'utopie. Mais. Enfin, je pense que malgré tout, ça dépend, il y a des gens qui sont insensibles et d'autres. Et oui. D'accord. Bon, alors, donc, j'avais. Oui, alors fidèle jusqu'à la mort, c'est pas la page 11, j'avais pas regardé. Fidèle à toi-même jusqu'à la mort. Évidemment, je fais un petit commentaire en disant que c'est pareil, c'est toutes ces poésies, ce sont soit des gens qu'on a côtoyés, c'est pas moi qui ai côtoyé la mort, heureusement, encore, j'espère encore vivre longtemps. Donc, j'ai écrit ça, fidèle à toi jusqu'à la mort. Impassible sur ton lit, tu attends la mort. Pas le moindre doute, pas le moindre remords ne pourrait ébranler la sérénité que tu affiches encore par vanité. Cependant, à l'heure du bilan bien sonné, qui voudrais-tu encore condamner dans cette vie où tes faibles réussites n'ont pu occulter tes vibrantes faillites? Tu as accusé ta mère d'avoir trop aimé l'enfant que ton père a souvent sous-estimé et qui, selon toi, a dégénéré ce raté que tu as tout le mal du monde à supporter. À l'école, pour excuser ta paresse, déjà enfant, tu accusais la maîtresse. Plus tard, tu prenais pour cible tes professeurs qui n'étaient, à ton avis, que de piètres censeurs. Tu en es convaincu, tu as eu des idées, mais personne n'a jamais voulu t'aider. Quoi que tu fisses, selon toi, tu ne pouvais t'en sortir dans une société où nos ancêtres martyrs ont enduré cet abominable esclavage qui, dans nos têtes, a fait un infini ravage. Avec raison, tu incrimines le racisme et dénonces les méfaits du colonialisme qui ont fait de nous ce peuple que nous sommes et qui, d'après toi, ne veut pas changer en somme. Au comble de l'absurde, ne sachant plus qui accuser, tu te demandes si tu n'as pas été quimboisé. Tu te plains de ta femme qui n'a rien compris, alors qu'à tes enfants, elle a surtout appris à te détester, à te fuir comme la peste. Ont-ils eu tort de ne pas demander le reste? Pourquoi dans ton être y a-t-il tant de rancœur? C'est sans nul doute l'objet de tous tes malheurs. Je comprends que tu ne veuilles point faire appel à l'être à qui tu dénies le titre d'éternel. Même si tu ne crois nullement en ce Dieu, avant de fermer les yeux, de fermer définitivement les yeux, avoue n'avoir pas toujours été un bon apôtre, que tout n'est pas fatalement la faute de l'autre.
Là encore, c'est une fable morale.
Et oui,
et c'est l'histoire d'un ratage, quelque part. Mais un ratage qui s'obstine à demeurer non lucide.
Et oui, même sur le lit de mort. Mm-hmm. C'est... Oui, et quelquefois, effectivement, ça, on rencontre dans la vie des gens et comme ça.
Alors, c'est vrai que ta poésie fait alterner l'humour, l'humour, la tendresse, un regard tendre sur les êtres humains, et puis avec le plus sombre désespoir est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas la plus sombre lucidité sur la tristesse de ce monde.
Et oui, peut-être trop souvent, on peut même, si on veut me le reprocher, hein, peut-être c'est un manque d'optimisme aussi de ma part. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas me juger. Hein. Mais moi, je suis quand même optimiste malgré tout.
Oui, tu es une personne qui est plutôt très active et plutôt enjouée.
Mais oui, j'essaie toujours d'être amusant, agréable, et aussi dans des textes. Effectivement, je recherche particulièrement ce côté amusant et humoristique.
Alors, il y a un texte que j'aime bien. J'aimerais que tu m'autorises à le lire parce que c'est si tous les métiers du monde.
Ah, ben oui, pas de problème. Hein,
Beaucoup de métiers passés au crible sont par leurs censeurs jugés crédibles. Certains sont honorablement glorifiés, d'autres ont beaucoup de mal à se justifier. Ainsi, le plus vieux du monde, tant vilipendé, trouve encore pléthore de fidèles pour le sauvegarder. Il n'a pas attendu la parité pour recruter chez les mâles, et malgré que personne n'y voit plus rien d'anormal, on se garde tout de même de prononcer « macoumé », mot encore péjoratif. Mais sur les ondes, on fait l'apologie pour promouvoir le préservatif. D'autres métiers semblent plus louables, même quand ils drainent des gains inavouables. On rencontre encore, heureusement, des sacerdoces qui tentent d'endiguer l'initiation des sales gosses. Futur fer de lance de la délinquance, témoignage d'une société frisant la déliquescence. Ainsi, tous en cœur, pensons qu'il n'y a aucun métier qui soit sot. Mais lorsqu'il s'agit de concrétiser un choix, nous hésitons à faire le saut. Le métier de l'autre est trop bien rémunéré. Taper dans un ballon est à la portée d'un demeuré, déclarent des gens qui ont fait de grandes études, mais qui, pour le foot, n'ont aucune aptitude. Tout ceci m'amène à parler d'un métier qui me tient à cœur. L'ayant longtemps pratiqué, il est encore l'objet de mes rancœurs. Je veux parler de celui de dépanneur de télévision, pour lequel je m'étais fait beaucoup d'illusions. Souvent, le client, passablement tortueux, connaissait par avance l'élément défectueux. Peut d'emblée incriminer un condensateur hypothétique. Mais ce con, dans sa terre-à-terre candeur dialectique, ne pense jamais qu'il peut lui-même remplacer la pièce défaillante qu'il a si facilement décelée et ainsi faire une économie substantielle. En profitant à cet égard du don du ciel, selon un autre, toujours prompt à faire la leçon, sa télé qui avait l'image et un déficit de son, si après réparation garde le son et perd l'image, sans même tenir compte de son vieillage, doit bénéficier d'une garantie perpétuelle, découlant d'une logique démentielle. Malheureusement, ce n'est pas tous les gagne-pains qui font l'homme manger à sa faim. Pitié donc pour le pauvre boxeur de seconde zone dont la vie n'a jamais été folichonne. Il subit des rafales d'upercutes comme ration quotidienne qui font de son cerveau un jiggy-jig dans sa boîte crânienne. Et on peut à peine compter le pécule qu'on lui octroie qui n'est qu'une misère de ce qu'on lui doit. Pitié également pour le coq Jem ou le taureau, lâchés dans l'arène infernale par leurs bourreaux, là où zépons et banderilles pénètrent leur chair et les déchirent sous les bravos des spectateurs, ravis de les voir souffrir. Utopisme, que les métiers qui avilissent ou martyrisent les êtres vivants soient bannis à tout jamais de notre environnement. Alors là, on sent un peu plus la veine humoristique. Mais c'est une expérience personnelle. Tu as été réparateur de télévision.
Oui, j'ai été réparateur de télévision.
Oui, j'aime beaucoup ce texte parce que c'est. Mais on est toujours un peu dans la fable. Hein. Je pense que si je devais qualifier ta poésie, je dirais que c'est une poésie de fabuliste.
Oui, bon, il n'y a pas de. Enfin, c'est-à-dire, je dis ce que je ressens. Bon, là, pour qualifier vraiment l'écriture, bon, c'est le lecteur hein, qui qualifie. Moi, je ne l'ai pas cantonné en quelque part, d'ailleurs, chaque fois que l'inspiration me vient.
Alors, justement, on parlait un peu de cette pauvre condition du petit patron de petite entreprise hein, voilà. et de se démêler parfois avec la justice
oui,
enfin présumait-elle
ouais disons que c'est la justice qui a plutôt qui a plutôt des problèmes avec ce petit patron étant donné que apparemment il n'a rien fait enfin voilà.
Alors, je te laisse la parole.
Alors, ce qui, bien sûr, m'a inspiré, ce petit, enfin, on pourrait même dire cette petite fable, anticipation dramatique virtuelle. Il était une fois un petit patron, désolé de n'avoir en caisse plus un rond, décida, non sans peine, de se mettre au vert afin de poser un bémol à son calvaire. Ne sachant plus quoi faire de son apprenti, bien sûr, un brave homme sensé et averti, à la chambre des métiers, vite il se rendit. Rien de plus élémentaire, il lui fut dit. En bas de cette feuille, apposez tous deux votre signature et vous pourrez allègrement partir en villégiature. Évidemment, ce providentiel accord le rassura, ne se doutant point qu'il avait affaire à un scélérat. Car en catimini, celui qui ne se croyait plus un môme alla sur le champ se plaindre au prud'homme. Depuis, ballotté d'un tribunal à un autre tribunal, la vie de ce pauvre homme devint infernale. Condamné à verser des sommes déjà payées, ses bourreaux continuaient à le dépouiller, jusqu'au jour où il décida de se révolter et de ne plus sans rechigner tout accepter. Si vous tenez à connaître l'épilogue de ce drame atroce, il faudra vous renseigner à la prison de Ducos.
C'est très autobiographique, ça.
Exactement. Mais quand
enfin,
même...
ça n'a pas été jusqu'à la prison de Ducos.
Non, mais... ça n'a pas été jusqu'à la prison de Ducos.
C'est dans l'écriture que ça s'est résolu voilà. Autrement. Mais donc, ce sont des règlements de compte, quand même, quelque part.
Enfin, oui, si on peut dire ça, mais de toute façon, et la persévérance et la volonté de ne pas se laisser faire et gagne toujours à la fin. Hein. Bon, enfin, on va pas, commentaires sur ce truc. Voilà.
Je te remercie, Édouard Macède. Nous allons donc terminer sur un petit texte qui appartient à Martinique d'hier,
oui.
Qui est un. Un petit jeu de mots en créole.
Un jeu de mots en créole.
Un jeu de mots de la fin,
oui,
on peut
si
dire.
On veut, hein, oui. Alors, c'était des jeux de mots. On faisait ça souvent entre camarades en classe. Et puis, bon, ben, j'ai remis tout ça. Voilà, chalviré. Mantitine, où savent chalriche moins quitter en France qu'à dévirer? Il pas fait pour faire médecin? Oui, mais pas faire en mède. Où savent? C'est pas t'es enceint. Ça, on l'a fait. C'est qu'on s'aille tout y est. Y'ch moins bébé qu'a fait karaté, mais frère gros mémé qu'a raté tout ça qu'a fait. Yo, j'dis que dis-moi qu'il est entré rastafarien. Moi, plutôt quoi, c'est rastafarien, parce qu'il pas j'en fais rien. Rastamontala, c'est pas rasta bon Dieu, c'est un rasta diable. Actuellement, si vous comprenez, si vous croyez en y'ch qu'a fait en bagaille bon, c'est l'espoir mal papaye. Dieu doit faire papa mal, Dieu doit faire papa mal, et puis c'est lui qui peut faire.
Merci Édouard Macède. Eh bien, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre rencontre avec un autre poète de chez nous. Il s'agira de Daniel Coulon. Donc, à très bientôt. Passez une merveilleuse semaine remplie d'amour et de poésie.